Merci pour vos excellentes rétroactions par texto au 418-971-1021. On les apprécie énormément. Lambert Drainville va être avec nous dans quelques minutes. Mais avant, Pascal, outre Pablo Rodriguez qui chute dans les sondages, outre Bruno Marchand qui nous a menti. Oui, c'est 1,9%, mais c'est 3% pour plusieurs gens dans la ville de Québec. Outre France-Hélène Duranceau qui nous a dit « M'a coupé 5000 postes, mais je sais pas comment. »
Mais là, laisse-moi ça un peu, là.
On est rendu où dans l'actualité?
Mais clairement, on va le nommer. Québec veut supprimer l'équivalent de 5000 postes dans la fonction publique d'ici 2027, mais on sait pas encore où, quand, comment, pourquoi. On sait que c'est une annonce du Conseil du Trésor et donc de France-Hélène Duranceau qui en est la présidente. Sinon, le docteur Amir Kadir qui a radié 6 mois maladie de Lyme. En fait, il a plaidé coupable à 12 chefs d'accusation en octobre dernier, rappelez-vous. Il a été radié par le Collège des médecins parce qu'il a fait des traitements controversés pour la maladie de Lyme. Et il y a l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne qui avait plaidé coupable à 12 chefs d'infraction avec le microbiologiste infectiologue qui était présent là. Donc, devant le conseil de discipline, le 28 octobre dernier, c'est là où on lui a reproché d'avoir offert divers traitements antibiotiques. C'est des traitements, en fait, de longue durée, plus de 4 mois aussi pour de nombreux patients. Et plusieurs étaient malades aussi, puis ils ne savaient pas trop où se diriger par rapport à cette maladie-là. Et on dit que c'était des patients vulnérables. Par contre, ça fait beaucoup réagir là, quand on regarde un peu partout. C'est qu'il y a des traitements qui existent, mais beaucoup aux États-Unis. Alors, c'est-tu pour ça qu'on a décidé du côté du docteur Kadir d'aller de l'avant dans tout ça?
Dans l'expérimental, entre guillemets? Là.
Si on veut, parce qu'effectivement, bon, c'est pas quelque chose qui était clairement écrit dans les livres de la médecine, mais bon, le spécialiste avait donné des exemples de ces patients désespérés qui ont pris du mieux après les traitements antibiotiques prolongés. C'est particulier comme dossier, mais c'est ce qui se passe actuellement pour le docteur Amir Kadir. Sinon, fermeture de clinique médicale, on en a parlé ensemble la semaine dernière.
Hey, ça, là, je te lève mon chapeau et je lève devant tous les auditeurs. Crime que t'étais sa coche parce que tu nous en as parlé 4-5 jours avant que ça sorte dans les autres médias. Pascal CV, gars, je te fais un fist bump. Good job!
C'est fait, mais c'est parce que c'est inquiétant quand même. Là. Des groupes de médecine familiale qui ne peuvent pas continuer à payer les frais, en fait. Le groupe aussi de médecine ici qui s'occupe de tout ce qui est suivi de grossesse et qui regroupe bien des suivis même en région. Et on est déjà submergé. Ça fait des années qu'on le roule. Là, on commence à tirer la sonnette, puis pas à peu près, parce qu'on dit ce projet de loi 2 pour le projet Christian Dubé renforce les grosses lacunes, les problématiques au niveau de la santé. Et le ministre de la Santé a réagi à la fermeture annoncée de dizaines de cliniques de médecine familiale en raison de l'adoption sous bâillon de la loi 2. Et il dit peut-être qu'on pourrait faire certains changements, mais comme tu vois, ça passe pas nécessairement très facilement.
En effet.
Et je termine avec Air Transat. Il y a des pilotes qui ont voté massivement en faveur d'un mandat de grève. Donc, on a voté pour tout ça qui pourrait être mis à exécution à compter du 10 décembre.
Vous mentionnez également que le dossier en itinérance qu'on a fait hier, Pascal, avec les vidéos de cet individu qui se promène à Québec, qui filme des itinérants sans leur consentement et qui leur remet des joints de potes et de l'alcool, bien, Novo TV va faire un suivi ce soir dans leur téléjournal. Donc, si vous voulez suivre le tout, on est très content d'être les premiers sur la nouvelle. Fait qu'à Boulevard, on peut dire à l'émission On en jase, Pascal CV, vous allez être les premiers sur la nouvelle.
Oui!
Ah, c'est un beau slogan, ça. On en jase.
On en jase.
Premier sur la nouvelle. Et parlant de gars compétents dans la nouvelle et qui a des informations privilégiées un peu partout sur la scène politique, on s'en va rejoindre Lambert de Rainville, vulgarisateur d'actualité. Lambert, comment vas-tu?
Allô, bien content d'être avec vous autres comme à chaque fois.
Ah, moi aussi Lambert, c'est toujours un bonheur de t'avoir à notre émission On en jase. Lambert, on va enchaîner 2 extraits pour commencer ta chronique. Le premier extrait, Mark Miller qui dit « on a le débat autour du français, je suis donc bien tanné de ça ». Et le deuxième, c'est François Legault qui ne mâche pas ses mots envers Mark Miller. Donc, je nous fais écouter ça et par la suite, on commente.
Ce que je déplore...
Bon, Lambert, Pascal, vous allez être d'accord avec moi? On a enfin retrouvé notre premier ministre! Il fallait parler de langue! Il s'est fâché! Il nous a défendu! J'ai senti François Legault de 2018 hier! Wow!
Est-ce qu'on l'a retrouvé ou on a juste appuyé sur sa petite fibre souverainiste
c'est
de
juste
protection du français?
Un passage!
Ouais, c'est ça. Écoute, c'est tout un début quand même hein, pour Mark Miller, fraîchement nommé. Lui qui avait été tellement déçu de ne pas être nommé dans le plus récent cabinet ministériel de Mark Carney, qui avait préféré l'écarter. finalement, bon, un peu pris les culottes baissées par la démission de Stephen Guilbeault, doit se trouver nécessairement là, quelqu'un au Québec pour prendre ce poste-là et choisit le gars qui avait précédemment décidé d'écarter. Il dit, garde mon gars, je te rappelle, je te ramène au cabinet, je te donne une nouvelle chance. Hey, jour 1.
C'est crédible,
ça, là,
c'est crédible.
C'est la pro... Hein?
C'est crédible, parce que j'entendrais, ça me donne un peu ma réponse.
Non, mais écoute, c'est la première question. Chaque ministre responsable des langues officielles au niveau fédéral, la première question que tu vas te faire demander quand tu rentres dans ce poste-là, ça a été vrai pour les 3, 4, 5, 6 derniers ministres des langues officielles au Canada. Est-ce que vous considérez que le français est en déclin? Et malheureusement, il n'a pas passé son test. Écoute, on va y aller, Jeff, avec quelques chiffres, OK, que j'ai tirés de Statistique Canada.
Vas-y.
Donc, c'est les chiffres du fédéral, c'est leur propre chiffre, OK? Langue parlée à la maison. 79% de la population parlait principalement le français en 2021. Il était 85% en 2001, donc une perte de 6 points en 20 ans pour la langue parlée à la maison. L'Institut de la statistique du Québec projette que ça va baisser sous les 75% d'ici 2036. Langue parlée au travail. Le français au travail est passé de 81% à 79%. Et à Montréal, spécifiquement, c'est moins de 60% aujourd'hui qui disent utiliser le français le plus souvent au travail.
Et hey, puis Lambert, hier, là, j'ai lu que 34% des commerces offrent un service uniquement en anglais la fin de semaine à Montréal.
Ben tu vois, dans les commerces montréalais, 63% des employés abordent spontanément les clients en français. 63%, ça veut dire qu'il y en a 37% qui abordent dans une autre langue. Mm-hmm. C'est une perte de 12 points dans les 10 dernières années. J'ai la langue maternelle, fait que la langue des gens au quotidien. Le français comme langue maternelle est en baisse. Chez les nouveaux arrivants, il y a de moins en moins de nouveaux arrivants qui sont capables de maintenir une conversation en français. Chez les allophones, donc ceux qui arrivent ici, qui ne maîtrisent pas le français ou l'anglais en arrivant, qui maîtrisent une langue tierce, eh bien, un allophone avait presque autant de chances d'adopter l'anglais que le français comme langue d'usage en arrivant ici. Et chez les plus jeunes, les 18-34, dans le Grand Montréal, l'usage de l'anglais au travail dépasse maintenant 37%. C'est 10% de plus qu'en 2001.
Puis
est-ce
je
que
ne veux pas.
Ça, JF, c'est un recul total, et Pascal?
Oui, Lambert, parce que je ne veux pas même confronter ce sondage-là, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. C'est peu. Le 30-quelques%, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça. Mm-hmm. D'utilisation de langue anglaise du côté de Montréal au travail. Nombreux sont mes amis qui travaillent dans un emploi qui est supposément francophone, mais qui utilisent tellement l'anglais au quotidien.
Ben voilà. Je pense que les chiffres sont têtus. Je pense que je viens d'en faire une liste assez exhaustive. Et n'importe qui vit à Montréal comme moi, qui est un francophone à Montréal, s'en rend bien compte. Mark Miller est un élu de quelle région déjà, Jeff?
Ah, vas-y donc.
La région de Montréal.
Ben oui, mais des comtés anglophones.
Ouais, ben c'est un gars qui vit au Québec depuis toujours, il devrait savoir ça.
Ben oui.
Alors, est-ce que c'est un recul total? Il dit que ça n'en est pas un, mais ça en est clairement un. Et ce n'est pas par démagogie ou par catéchisme, comme il mentionne, que les partis politiques au Québec tentent par tous les moyens de renforcer la protection de notre langue. C'est parce que c'est un enjeu qui est important aux yeux des Québécois. Le français, c'est le socle de qui on est comme peuple, c'est le socle de notre nation, c'est le socle de notre culture. Il est tanné de ce débat, lui. Eh bien, malheureusement, les Québécois, eux, ne sont pas tannés et veulent continuer de protéger leur langue, étant entourés d'une marée d'anglophones de tous les côtés. Je vais lever mon chapeau à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a dénoncé ce qu'il disait l'aplavantrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois. Il y avait des industries, l'Association québécoise de la production médiatique et la Société des auteurs de radio, télévision, cinéma, qui ont salué la nomination de Mark Miller. Je trouvais ça un petit peu spécial.
Oui, on tentait de garder nos subventions.
Oui, c'est ça. Il y a certainement un peu de ça. Il y a certainement un peu de ça. Mais considérant, comme je disais, que le français est le socle de la culture au Québec, de voir des acteurs importants de l'industrie culturelle au Québec saluer sa nomination alors que ce n'est pas la première fois qu'il manque de sensibilité envers le cas français, je trouvais que c'était très, très gênant. Mm-hmm. Et c'est exactement ce que PSPP a dénoncé sur ses médias sociaux. Alors, je salue ça, je salue qu'il le mentionne. Puis là, pour la suite, ben, Mark Carney, on s'en est parlé un peu vendredi avec sa décision.
Ouais, là, Lambert, c'est là la question que j'avais pour toi. Là. Vendredi, on se parlait du pipeline en Alberta qui faisait pas l'affaire ici au Québec et du Bloc québécois. Puis là, aujourd'hui, on se reparle encore de Mark Carney. Puis on dit, coudonc, Mark Carney est en train de l'échapper au Québec avec Mark Miller comme ministre de la Culture. Va pas bien pour Mark Carney. Pourtant, c'est le Québec qui l'a mis à l'avant-plan, qui l'a mis comme premier ministre.
Mais c'est ça la chose. Puis c'est louable, on s'en était parlé vendredi. C'est louable si lui, il dit, garde, moi, c'est pas par calcul politique que j'ai envie de travailler sur un projet de pipeline qui passe de l'Alberta à la Colombie-Britannique. C'est pas par calcul politique que je vais nommer Mark Miller. À un moment donné, je veux bien là, que tu mettes que ce soit secondaire pour toi le calcul politique, mais tu gouvernes un gouvernement majoritaire. T'as 2 députés de plus. Que si tu additionnes tous les autres partis ensemble, la durée de vie d'un gouvernement minoritaire est entre 12 et 18 mois. Généralement, ça fait déjà 7 mois qu'il est là, donc on peut s'attendre à une élection possiblement dans la prochaine année, donc nécessairement dans les prochains mois. Comme tu le disais, il doit une grande partie de sa victoire à des électeurs au Québec et à des électeurs en Colombie-Britannique. Et là, on est toujours en attente là, d'un premier geste de sa part, là, après 8 mois. Qui va démontrer que le premier ministre a une sensibilité envers les Québécois ou encore le français. Il n'est pas capable d'enchaîner 2 phrases d'affilée en français comme il faut. Tu sais qu'il a donné juste une entrevue hein, jusqu'à maintenant, en 8 mois, en
C'est
français.
Vrai, en français, tu as raison. Non, ça, honnêtement, là, ça va vraiment pas bien pour lui présentement au Québec. Et moi, je suis extrêmement déçu. 418-971-1021, si vous êtes déçu comme moi, mais je suis extrêmement déçu de Mark Carney du Parti libéral à l'heure actuelle.
Ben, je veux dire, on peut, tu sais, bon, toi, tu peux être déçu. Je pense que les gens qui vont voir d'un bon œil tous les gestes qu'ils posent au niveau des grands projets, au niveau l'augmentation des dépenses en défense, je pense qu'il y a des gens qui cautionnent plusieurs de ces politiques. Mais encore une fois, pour mettre en place ces politiques-là qui vont prendre plusieurs années à mettre de l'avant, il faut qu'ils restent au pouvoir. Il faut qu'il reste au pouvoir. Fait qu'encore une fois, je reviens à mon point initial de dire, ben là, à un moment donné, je veux bien que tu réfléchisses, tu ne poses pas des gestes en fonction de calculs politiques, mais il va falloir que tu t'arranges pour garder tes appuis qui t'ont amené là, parce que si tu te retrouves à ne plus être là, ben ça va être difficile pour toi là, de faire avancer tes projets, là.
Lambert, il y a quelque chose qui fait énormément réagir à chaque fois qu'on en parle, puis j'ai l'impression qu'on veut travailler en amont sur le dossier, avec tout ce qui se passe actuellement, puis les conversations, puis la prise de parole. La dernière, en fait, de Léa Clermont-Dion aussi, était très importante dans le projet dans lequel elle se lance. Mais pour le politique, c'est Simon-Jolin Barrette qui devrait retirer l'avortement de la loi sur la Constitution. Tu as quelque chose à dire là-dessus, toi?
Oui, bien, je le ferai, moi. Je la retirerai, l'article 29 de son projet de loi là, de Constitution qui dit que l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est bien louable. L'intention est bonne. On a compris que c'était une valeur qui était importante pour le gouvernement. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est une valeur qui est importante pour les Québécois en général. Mais là, tu as plusieurs groupes de défense. Tu as le barreau, tu as le Collège des médecins, tu as une lettre ouverte dans le Devoir qui est signée par plus de 400 signataires, dont essentiellement des médecins, qui lui demandent de ne pas légiférer au sujet de l'avortement. Ce qu'ils disent au fond, c'est que ça va donner une cible, ça va donner une cible juridique. Présentement, il n'y a aucune loi, ni provinciale ni fédérale, qui rend l'accès le plus solide possible sur le plan juridique. Parce que ce n'est pas nécessaire. Ce flou-là autour de l'avortement, si on se fie au légiste, c'est le meilleur bouclier dont peut bénéficier l'accès à l'avortement. Et en légiférant, ben, le Québec créerait de toute pièce une loi qui pourrait par la suite être attaquée sur la base des droits fondamentaux par des groupes anti-choix ou encore des groupes religieux pour restreindre l'avortement. Alors, il y a déjà d'ailleurs des groupes religieux ailleurs dans le Canada qui regardent ce qui se fait au Québec et qui semblent se frotter les mains par rapport à ce désir du gouvernement de légiférer à ce niveau-là. Alors, si l'avortement, selon les différents groupes qui ont pris parole là-dessus, est mieux protégé par l'absence d'une loi, ben, enlevons-le de la loi, là.
T'sais, vraiment. Gardons le flou autour de l'avortement pour protéger le droit à l'avortement, c'est ce que je comprends.
Exact. Puis, tu sais, Il s'était fait reprocher en déposant son projet de constitution de ne pas avoir assez consulté en amont et répondait à ça, bon, qu'il avait consulté les premiers ministres, qu'il avait consulté un paquet de monde de la société civile. Il répondait aussi qu'il serait à l'écoute, tu sais, qu'il allait avoir des consultations sur le projet de loi et qu'au besoin, ben, il serait ouvert à améliorer son projet de loi. Et ben, je pense que c'est là une belle occasion pour lui de montrer qu'il peut être à l'écoute. Il a répété aussi qu'il était confiant de rallier les autres partis pour qu'ils votent en faveur de son projet de constitution. Pour l'instant, il n'y a aucun des partis qui dit l'appuyer. Ce serait encore une fois une belle façon de démontrer qu'il est à l'écoute, considérant que les trois partis d'opposition ont également demandé à ce qu'il retire cette clause-là, ben, qu'il démontre à ces partis-là qu'effectivement, il est prêt à travailler en équipe. Et comme il le dit lui-même, que ce n'est pas une constitution caquiste, mais c'est une constitution québécoise qu'il met en place. Alors moi, je pense que c'est un combat qu'il n'est pas obligé de mener jusqu'au bout. Je pense que ce serait une belle option pour lui là, de démontrer qu'il peut faire preuve d'ouverture. Puis après ça, ben, il peut se concentrer sur le reste.
Est-ce que ça peut être mal vu de part et d'autre? Parce que c'est autant un débat qui est difficile, qui est sensible, qui est... Est-ce que vraiment quelqu'un peut s'opposer à ça dans les droits moraux, modernes, la façon de parler de tout ça? Je m'en vais pas dans l'extrême conservateur ou religieux ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu crois que certains partis, mis à part ceux plus conservateurs, pourraient s'opposer à une façon de faire comme celle qu'on décrit en ce moment?
Non. Non.
Tout simplement.
C'est pas plus compliqué que ça. Non, non, mais ce serait suicidaire. Au Québec particulièrement, au Québec particulièrement, n'importe quel parti qui s'aventure sur ce terrain-là de restreindre l'accès, que ce soit aux soins, que ce soit aux cliniques, aux services pour les femmes en situation de vulnérabilité, c'est une patate chaude que personne ne va s'embarquer sur ce terrain-là. Puis au Canada, c'est pas mal la même affaire, là, si ce n'est, comme tu disais, de quelques groupes plus conservateurs dans l'ouest du pays. Et c'est ça le point principal. C'est exactement ça le point principal. Au Canada, il n'y a personne. T'sais, politiquement, c'est suicidaire que de s'aventurer sur ce terrain-là. Mm-hmm. Alors, gardons ça comme ça. N'allons pas plus loin en légiférant, parce qu'à ce moment-là, ben, ça ne deviendrait plus... alors que présentement, on joue sur une seule et unique route, c'est-à-dire la route politique, eh bien là, on viendrait ouvrir un deuxième canal, qui serait le canal légal. Et c'est cette voie-là qu'emprunteraient les groupes qui souhaiteraient restreindre l'avortement. Et c'est ça, dans le fond, que les différents groupes de défense des femmes dénoncent. Encore une fois, n'allons pas là et faisons preuve de gros bon sens.
Faut carrément l'éviter. Lambert, je termine cette excellente chronique que tu fais avec nous à chaque mercredi aux alentours de 13h en te posant la question suivante. Est-ce qu'on va assister à deux courses à la chefferie au retour des fêtes, c'est-à-dire au Parti libéral avec Pablo Rodriguez qui frappe à 17 % d'approbation dans la population québécoise et qui perd des points de façon phénoménale avec moins 6 % dans le sondage au général, mais qui il est rendu à peu près à 14 % au niveau du vote francophone. Et François Legault va-t-il continuer à s'accrocher malgré un maigre 18 % face à la débandade libérale?
On se porte-tu un pool?
Oui!
On se porte un pool.
J'aime ça!
Ben, OK, on va faire deux questions.
Excellent!
Lequel des deux part en premier? Puis jusqu'à quand Pablo va-t-il être chef du Parti libéral? Ouf. OK? Moi, je parie. Moi, je vous dis que Pablo est plus chef du parti d'ici à la Saint-Valentin. Qui dit mieux?
OK, tu dis à la Saint-Valentin.
Ah, pourquoi la Saint-Valentin?
Pablo. Ben parce que l'histoire d'amour va être terminée. Ah. Tu veux pas faire de cadeaux à Saint-Valentin, quelqu'un t'aime plus?
Oui, puis c'est surtout que... Oui, bon point. Puis c'est surtout le rapport d'enquête sort le 31 janvier.
C'est vrai. Okay. C'est bon. Fait que toi, tu y vas à la Saint-Valentin. Ben moi, gars, je vais te devancer. Je vais dire le 4 février, compte tenu que le rapport sort le 31 janvier. Ça va être un rapport dévastateur.
Le 4 février.
Bon, mais c'est sûr que moi, ça joue là, la petite information supplémentaire que tu nous as donnée. Fait qu'on va y aller avec février aussi. Je vais y aller un petit peu après, moi, la Saint-Valentin, juste pour changer ce que vous avez offert. Oui, c'est ça.
Parfait. François Legault, Pascal Cévé, vas-y en premier, là, vu qu'on t'a mis un peu de bâton dans les roues.
Ouais, moi, j'aimerais ça qu'en 1er janvier, là, au retour à l'Assemblée nationale, ça soit une annonce officielle qui va...
Comme Justin Trudeau, là, le 6 janvier, là, ça tombe le 5, là, le lundi du 5. Toi, tu y vas avec ça?
Oui, j'aimerais ça.
Lambert Drinville, François Legault.
Je pense qu'il n'est plus là, moi, d'ici la relâche.
Mars.
OK. Mars, à la relâche. Moi, je pense que François Legault...
Là, on parle d'une annonce ou il n'est plus là? Il n'est plus là, là.
François Legault...
Du moment qu'il fait une annonce, du moment qu'il fait une annonce...
Oui, c'est ça, du moment qu'il fait une annonce, qu'il dit « J'annonce une course à la chefferie, tout ça. » Pascal, il va directement après les fêtes. Moi, je vais me situer entre les deux. François Legault va partir à la mi-janvier, aux alentours du 15 janvier.
Considérant que lui, il se dit qu'il s'accroche,
C'est ça. Mais là, tu sais, on doit reprendre les travaux de l'Assemblée nationale. Et là, j'ai pas le calendrier devant moi, mais on doit reprendre aux alentours du 20-quelques janvier. Donc, il va faire une sortie avant pour dire « Écoutez, je cède ma place. »
Ouais.
C'est un bon pool, ça.
Oui, c'est un bon pool. Moi, j'ai hâte de voir parce que c'est drôle parce que j'ai vécu, puis là, c'est rare que je parle de mes affaires personnelles, mais j'ai vécu, tu sais, j'ai fréquenté quelqu'un pendant plusieurs mois cet été et c'était vraiment le fun. Tu sais, l'été était magnifique, c'était les papillons, tout ça. Puis là, l'année a commencé, puis ça faisait comme plusieurs mois qu'on se voyait. Puis là, tu sais, tranquillement, comme tu deviens à l'aise avec l'autre personne, puis là, certaines facettes de sa personnalité peut-être. Cachée, ou en tout cas qu'elle avait peut-être mis beau dans les premiers mois, transparaissent, tu sais. Puis là, tu fais comme OK, là, puis là, tu te rends compte un petit peu plus du type de personne que t'as. J'ai comme un peu cette impression-là avec le Parti libéral. Oui. Tu sais, t'as tout beau, Pablo, il est là, le Parti libéral est de retour dans possiblement un poste où ils vont pouvoir menacer la CAQ et devenir le gouvernement en attente. Et là, ben écoute, on se rend compte dans les dernières semaines que. Qu'est-ce que tu veux? Pablo Rodriguez, c'est une brique après l'autre. Son leadership, c'est absolument désastreux. Tu sais, s'il y a des textos qui coulent comme ça à chaque semaine quasiment, là, c'est qu'il y a des gens quelque part qui font couler des choses. Là, mm-hmm. Des gens quelque part qui veulent pas là, que ce gars-là réussisse. Gestion de crise, c'est extrêmement difficile. Là, il met dehors Marois Risky. Tu sais, il déclenche une enquête pour savoir ce qui s'est passé entre Marois Risky et Geneviève Hince. Puis avant même d'avoir le résultat des enquêtes, finalement, il met Marois dehors puis il ramène Geneviève Hince. Laisse-moi te dire que si ces enquêtes-là disent que c'est Marois qui avait raison, puis Geneviève Hince qui était dans le tort, là.
Il est dans le trouble.
Il est dans le trouble. Fait que là. Yes. Écoute, est-ce qu'il existe un scénario où Pablo sort de là indemne? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il existe un scénario où les pots se réparent à 100%? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il existe un scénario où Pablo peut avoir assez de poigne pour garder tout le monde serré? Ça semble pas.
Non.
Alors, tu fais quoi dans ce contexte-là? Là?
Tu remplaces le chef.
Ben, c'est un peu comme mon histoire de fréquentation. Tu sais, est-ce que tu t'embarques? Est-ce que tu t'embarques dans quelque chose que tu es là? Finalement, je suis pas sûr que je me vois avec cette personne-là sur le long terme.
Mais non.
Si tu ne te vois pas avec cette personne-là sur le long terme, tu es peut-être mieux de dire ben, on va tirer sa plug tout de suite, puis on va s'éviter des semaines et des mois de travailler dans le beurre à bâtir quelque chose qui n'a pas de fondation solide. Moi, je pense que tu tires sa plug le plus vite possible, puis tu essaies de te trouver un nouveau partenaire.
T'as tellement raison. Le Parti libéral va retomber en amour avec quelqu'un d'autre, Pascal CV. C'est-tu pas beau? Lambert Drainville, merci. Toujours pertinent tes chroniques. On t'adore, mon chum.
C'est réciproque. Hey, cool. Je suis pas là vendredi, malheureusement.
Oui,
j'ai l'empêchement.
Moi non mais plus, je ne suis pas là vendredi. Alors, ça sera un tête-à-tête Pascal CV, Farnell Morisset. Oui. Ratez pas ça.
On va écouter ça.
Ça va être l'enfer. Ils vont chicaner. Non, je pense pas. Alors, c'était Lambert Drainville que vous entendez à chaque mercredi avec nous et à chaque également vendredi, normalement, débat avec Farnell Morisset, mais qui n'aura pas lieu cette semaine en raison d'une absence de Lambert. Avant qu'on passe à la pause, Pascal, et qu'on ait rejoint Alicia Despins, ancienne conseillère municipale qui va nous donner son appréciation du budget. Demain matin, il y a de quoi de le fun qui se passe!
La guignolée des médias. Quelle journée extraordinaire. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on ramasse des sous et on va dans les rues, on va vous attendre. Alors, préparez vos petits 5 piastres, vos 1 piastre, vos 2 piastres. Et en passant, si vous donnez 10, 20 ou 50, je vous donne exactement ce que ça vaut pour Moisson Québec, OK? Moisson Québec redistribue 5 repas aux personnes dans le besoin. 10 $, c'est un panier alimentaire pour 2 personnes. 20 $, c'est une semaine d'épicerie pour une famille. Et 50 $, c'est 250 repas pour ceux qui en ont besoin. Donc, demain, on sera à l'intersection Lormière et Blain. C'est entre Johnny Parent et Chauveau. Il y a un Tim Hortons au coin, là, un McDo à côté. Bon, vous venez de le situer, là. Et vous direz salut à notre équipe de Leclerc Communication parce qu'on va être là de 7h à 9h. Donc, chaque dollar reçu compte. Puis la guignolée des médias, c'est pas seulement une journée, mais c'est tout au long du temps des fêtes. Donc, on vous invite, si vous n'avez pas d'argent demain ou quoi que ce soit, vous oubliez, à faire un petit don à moissonquebec.com ou en textant Noël au 20-222. Un don de 10 $ automatiquement en textant au 20-222. 2-2-2. Mais ce serait le fun de voir à l'intersection demain, tellement. Intersection Lormière et Blain, entre Johnny Parent et Chauveau.
Allez-y, gang, en grand nombre, c'est la guignolée des médias qui commence à nourrir les gens en situation de défavorisation. Et c'est tellement important. Éric Boulay, ce matin, de l'Aube-Rivière, nous disait « Hey, Moisson-Québec, là, ça me fournit plus de la moitié de ma bouffe que je distribue à l'année aux personnes itinérantes qui sont en ville. » Donc, c'est tellement un organisme important.
Bon, ben imaginez à quel point ça peut changer. Puis des vies, des tablés, les familles aussi. Il faut savoir, c'est des enfants qui vont avoir le ventre plein pour aller à l'école.
Oui. Courte pause!
Juste avant, service de police de la Ville de Québec qui a procédé ce matin à l'arrestation du suspect recherché en lien avec la violente agression survenue au McDonald's de la rue Saint-Jean. Donc, dans la nuit du 30 novembre dernier, on a mis la main sur un homme de 31 ans dans le secteur du Vieux-Port de Québec. Maintenant, il fait face à des accusations de voies de fait graves et aussi a été appréhendé en vertu d'un mandat d'arrestation. Il est actuellement détenu, doit comparaître au cours de la journée au Palais de justice de Québec.
Excellente nouvelle judiciaire. Merci beaucoup, Pascal CV. On fait une courte pause par la suite. Alicia Despins, ancienne conseillère municipale, va être avec nous. Elle va justement nous donner son appréciation du budget Marchand, le premier budget de cette ère numéro 2 de Bruno Marchand.